chapitre 5. Comme j'étais endormi, j'ai raté le moment où le car a traversé l'immense pont posé sur la mer intérieure. Je me réjouissais pourtant de voir enfin ce viaduc que je ne connais que sur les cartes. Quelqu'un me secoue doucement par l'épaule. « On est arrivé !» dit la fille. Je m'étire sur mon siège, me frotte les yeux, puis regarde par la fenêtre. Le car est effectivement arrêté sur une place devant une gare. La lumière fraîche du matin enveloppe les environs. Éblouissante et douce à la fois, elle ne fait pas le même effet que la lumière de Tokyo. Je regarde ma montre. 6h32. Ma voisine me parle d'une voix lasse.
Oh, c'était long. J'ai les reins en compote. Et mal à la nuque aussi.
Jamais plus je ne prendrai un car de nuit. La prochaine fois, je prendrai l'avion.
Même si c'est plus cher.
Et même s'il y a des turbulences ou des détournements. Je m'en moque. Je descends sa valise et mon sac à dos du compartiment à bagages.
Comment tu t'appelles ? Je lui demande.
Moi ?
Oui, toi.
Sakura, dit-elle. Et toi ?
Kafka Tamura.
Kafka Tamura, répète-t-elle. Drôle de nom. Enfin, c'est facile à retenir.
Ce n'est pas simple de devenir quelqu'un d'autre. Mais changer de nom, rien de plus facile. Une fois descendue du car, elle pose sa valise par terre, s'assied dessus, sort un carnet du sac à dos qu'elle porte à l'épaule, griffonne quelque chose, arrache la feuille et me la tend. Ça ressemble à un numéro de téléphone.
Mon numéro de portable, dit-elle avec une grimace. Je vais passer quelque temps chez une amie. Mais si tu as envie de voir quelqu'un, appelle-moi. On pourra aller manger ensemble. N'hésite pas, hein? Comment on dit déjà? Même les rencontres de hasard sont dues à des liens noués dans des vies antérieures. C'est ça, c'est ça!
Mais ça veut dire quoi au juste?
Que tout est déterminé par le karma. Même pour des choses insignifiantes, le hasard n'existe pas. Assise sur sa valise jaune, le carnet à la main, elle réfléchit un moment.
C'est une philosophie comme une autre. C'est peut-être pas mal.
Ça fait réincarnation, New Age, tout ça.
Mais rappelle-toi tout de même une chose, Kafka Tamura. Je ne donne pas mon numéro de portable à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire?
Je la remercie. Plie le bout de papier et le glisse dans la poche de mon caouet. Puis je me ravise et le fourre dans mon porte-monnaie.
« Tu es à Takamatsu jusqu'à quand ?»
demande Sakura.
« Je ne sais pas encore. Ça dépendra des circonstances. »
Elle me regarde fixement, penche un peu la tête, l'air de dire « Bon, n'insistons pas. » Puis elle s'engouffre dans un taxi et disparaît en agitant la main. Et je suis de nouveau seul. Elle s'appelle Sakura. Ce n'est pas le nom de ma sœur. Cela dit, ce n'est pas compliqué de changer de nom. Surtout quand vous ne voulez pas qu'on vous retrouve. J'ai réservé une chambre dans un business hotel de Takamatsu que m'avait conseillé la YMCA de Tokyo. Quand on vient de la part de la YMCA, on a une réduction les trois premières nuits. Après, on paie le prix normal. Évidemment, je pourrais dormir sur un banc dans la gare pour faire des économies. Il ne fait pas froid et j'ai un sac de couchage. Je pourrais même dormir dans un parc. Mais si je croisais des policiers en patrouille, ils me demanderaient aussitôt mes papiers. Et s'il y a une chose que je veux éviter, c'est bien celle-là. Voilà pourquoi j'ai réservé trois nuits d'hôtel pour commencer. Pour la suite, je verrai en temps voulu.
j'entre dans un restaurant qui sert des nouilles de blé près de la gare. Et je me remplis l'estomac. J'ai choisi la première gargote que j'ai aperçue. Moi qui suis né et ai été élevé à Tokyo, je n'ai pas eu beaucoup d'occasion de manger de véritables udon, spécialité de l'île de Shikoku. Je n'en ai jamais mangé d'aussi bonne que celle-ci. Fraîche, ferme, le bouillon parfumé juste ce qu'il faut. Et ça coûte étonnamment peu cher. C'est tellement bon que j'en commande un second bol. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi repu. Une sensation de bien-être m'envahit. Ensuite, je vais m'asseoir sur un banc de la place située devant la gare et je contemple le ciel dégagé au-dessus de ma tête. « Je suis libre, » me dis-je. « Libre et seul comme un nuage dans le ciel. » Je décide de tuer le temps jusqu'au soir en me rendant dans une bibliothèque. Je me suis informé avant de venir sur les bibliothèques qu'on trouvait à Takamatsu et les environs. Depuis tout petit, je passe ma vie dans les salles de lecture des bibliothèques. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où puisse aller un petit garçon qui n'a pas envie de rentrer chez lui. Il ne peut pas entrer dans un café, ni aller au cinéma. Il ne reste que les bibliothèques. Elles sont gratuites et personne ne dira rien à un enfant qui y entre seul. On peut s'installer sur une chaise et lire tant qu'on veut. Après l'école, j'allais toujours à la bibliothèque à vélo. J'y passais même la plupart de mes jours de congé. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Contes, romans, épopées, livres d'histoire. Quand j'ai eu fini de lire la littérature pour la jeunesse, je me suis attaqué à la section adulte. J'ai lu jusqu'à la dernière page de livres auxquels je ne comprenais rien. Quand j'étais fatigué de lire, j'allais m'asseoir dans une cabine et j'écoutais de la musique au casque. Comme je n'y connaissais rien, j'écoutais simplement dans l'ordre, en partant de la droite, tous les CD qui se trouvaient là. C'est ainsi que j'avais fait connaissance avec Duke Ellington, les Beatles, Led Zeppelin. La bibliothèque était ma seconde maison. Ou plutôt le seul endroit où je me sentais vraiment chez moi. À force d'y aller tous les jours, j'avais fini par connaître toutes les filles qui y travaillaient. Elles m'appelaient par mon prénom, me disaient « bonjour » quand j'arrivais, m'adressaient quelques mots gentils. Mais j'étais affreusement timide à l'époque et je n'osais pas leur répondre. Il existe une bibliothèque privée dans la banlieue de Takamatsu. Le chef d'une riche famille locale a transformé ses archives personnelles en bibliothèque et l'a ouverte au public. On y trouve des livres rares et la maison et le jardin en eux-mêmes valent le coup d'œil, paraît-il. J'ai vu des photos de cet endroit dans le magazine Taiyo. C'est une vieille maison de style traditionnel avec une salle de lecture très élégante qui ressemble plutôt à une antichambre. On voyait des gens en train de lire, installés dans des canapés confortables. Quand j'avais vu ces photos, je m'étais senti étrangement attiré par ce lieu. Je m'étais dit que si un jour j'en avais l'occasion, j'irais visiter cette bibliothèque. Elle s'appelait Bibliothèque commémorative Komura. Je vais faire un tour à l'office du tourisme de la gare pour demander où elle se trouve. Une aimable quadragénaire me donne un plan de la ville, marque l'endroit d'une croix, m'indique quel train je dois prendre pour y aller. « C'est à une vingtaine de minutes d'ici », m'explique-t-elle. Je la remercie avant d'aller consulter le tableau des horaires à la gare. Il y a un train toutes les 20 minutes. Comme j'ai un peu de temps avant le prochain, je vais m'acheter un déjeuner à emporter à un kiosque de la gare. C'est un petit train avec seulement deux wagons. La ligne traverse d'abord un quartier commerçant avec des enfilades de hauts immeubles, puis une zone de petites boutiques et maisons d'habitation. Après cela, elle passe devant des usines, des entrepôts. Ensuite, on longe un parc, un chantier de construction. Le nez collé contre la vitre, je regarde intensément ces paysages inconnus. Tout est d'une nouveauté pleine de fraîcheur à mes yeux, moi qui n'ai jamais vu d'autre ville que Tokyo. Nous sommes en fin de matinée, ce train est presque vide, mais les quais d'en face sont pleins de collégiens et de lycéens en uniforme, cartables en bandoulière. Ils sont tous en route pour l'école. Pas moi. Moi, je m'en vais tout seul dans la direction opposée. Eux et moi, on n'est pas sur les mêmes rails. Juste à ce moment-là, je suis assailli par une brusque sensation d'oppression. Comme si l'air s'était raréfié autour de moi. Ai-je vraiment pris la bonne décision? Je me sens tout à coup très seul, perdu. Je m'efforce de ne plus regarder les quais d'en face. Le chemin de fer suit la côte un moment, puis bifurque vers l'intérieur des terres. Il y a des champs de maïs, des vignes, des terrasses plantées d'orangers. Ici et là, des bassins d'irrigation miroitent sous le soleil matinal. Au fond d'un vallon serpente une rivière limpide. Des terrains en friche sont couverts de graminées estivales. Un chien, installé juste à côté de la voie, regarde le train passer. Je retrouve mon calme en regardant ce paysage. « Ça va aller, » me dis-je, en prenant une grande inspiration. « Il suffit d'aller de l'avant. » Une fois sorti de la gare, je marche vers le nord entre les rangées de vieilles maisons, comme me l'a indiqué la dame de l'office de tourisme. La rue est bordée des deux côtés de murs d'enceinte à perte de vue. Je n'en ai jamais vu autant. Il y en a de toutes les sortes. Des clôtures de planches noires, des murs blancs, des blocs de granit empilés, des murs et de pierres surmontés de buissons. Les environs sont parfaitement silencieux. La rue déserte. Pas de piétons et à peine une voiture de temps en temps. L'air a un léger parfum de marée. La mer doit être toute proche. Je tends l'oreille, mais n'entends aucun bruit de vague. Je perçois au loin le son d'une scie électrique, comme un bourdonnement d'abeilles. Il y a peut-être un chantier de construction non loin. Je ne peux pas me tromper de chemin, car à partir de la gare, des panneaux fléchés indiquent la direction de la bibliothèque.